Bonjour Manon, tu es la toute première ce matin, sois bénie. C'est même bizarre qu'il n'y ait pas trop de connexion. J'espère qu'il n'y a pas une problématique que je ne vois pas. Es-tu de retour à Montréal, Manon, ou tu es encore à Saint-Lin? Bonjour Pascal. Bonjour la belle-mère. Eh, c'est quand même long, 2 semaines. Puisque tu seras bientôt de retour à Montréal, on te souhaite un bon retour à la maison. Bien hâte de te voir. Alors aujourd'hui, on est le vendredi 15 juillet 2022, journée ensoleillée. C'est pour ça que vous voyez la lueur derrière moi. J'aurais dû fermer le rideau pour bien faire. Bonjour à Dalila. Que Dieu vous bénisse, Dalila. Bonjour à ma mère, à mon père. Je ne sais pas si Marlène et Leandro sont avec vous. On les salue. Bonjour Ramon. Bonjour à Evelyne, si elle est avec toi. Préparer d'eau et ça risque de me jouer des tours tout à l'heure, mais on va y aller comme ça. Alors il est 8h21, vous avez encore un peu de temps devant vous pour d'une part vous saluer et aller vous chercher un peu d'eau, de jus si vous préférez. On vous rappelle qu'on a 2 rendez-vous aujourd'hui, ce matin et ce soir pour la prière à 19h. Je ne suis pas encore sûr de quel endroit je vais être, où je vais être pour diffuser. Daphné fait du 6 à 18 ces jours-ci et pour les semaines à venir aussi. Donc, on est en train de voir comment s'organiser. L'atout encore, effectivement, Ramon. Quelques malaises qui perdurent, donc l'atout perdure aussi, malheureusement. Je devrais avoir un rendez-vous avec mon chirurgien d'ici quelques semaines, puisque j'ai fait pas mal d'examens, donc je dois prendre des rendez-vous maintenant. Et on verra s'il me propose quelque chose. Pas pour la toux, mais pour les reflux. Même si ça fait 6 ou 7 ans maintenant que c'est 6 ans en fait, que c'est comme ça en fait. Mais il y a des périodes, on dirait, peut-être avec la fatigue qui est un peu plus grande, le poids qui fluctue. Je sais pas, l'oreiller qui est plus ou moins épais ou autre, on dirait que par moment ça fluctue. Que par moment c'est plus intense que d'autres, dirons-nous. Bonjour Marie-Marthe. Bonjour Lucie. Donc aujourd'hui, on continue notre étude toujours sur 2 Timothée au chapitre 4, le verset 6 à 22. On reprend pour une dernière fois la thématique qu'on a abordée il y a deux dimanches sur le fait de veiller à bien s'entourer. On aura l'occasion de revoir un peu les données de cette semaine et terminer avec nos deux derniers personnages. Merci la belle-mère. Merci Lucie. Bonjour Guy. J'espère que tu vas bien. Encore 5 minutes avant qu'on ne débute. Alors, aux Français dans la place, comment vous avez célébré la prise de la Bastille hier? Je sais que ma sœur et mon neveu sont allés sur le Mont-Royal. Assurément, autour de l'ambassade ou du consulat français, ils devaient faire des choses. Habituellement, ils ont une réunion, en tout cas un rassemblement des Français sur Montréal lorsque le 14 juillet arrive. Bonjour Rachel, bonjour Mona, bonjour Chantal, bonjour Ocilia. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Merci Denise, merci Rachel. Alors, vous ne l'entendez pas parce que les fenêtres sont fermées, mais le coq continue à chanter. Bonjour Rosie. J'ai pas écrit le 15 juillet. Regardez ce que j'ai inscrit. Je croyais avoir changé. Mais peut-être que j'ai pas mis. J'ai changé le nom du jour, mais pas de. Ah, j'ai pas changé le nom de la. J'ai pas changé le chiffre. On va changer ça. Si. Voilà. Merci Rosie. Donc 15 juillet. 15 juillet. Enregistré. Voilà. Merci Rosie. Je viens de corriger. L'erreur. Donc bien le vendredi 15 juillet, effectivement. Et non pas le vendredi 14 juillet. Gérard, bonjour. Julie, bonjour. Bonjour à votre époux. Louise, Michel, bonjour. Je ne sais pas si le coq est constant dans le bonheur des voisins. À 5 heures, j'étais dehors, il chantait. Puis il y a quelqu'un qui marchait dans la rue et qui ne semblait pas apprécier le chant du coq. Je m'imagine simplement les voisins qui dorment avec la fenêtre ouverte. Je comprends que c'est beau. Ça fait la banlieue, même si on est à Montréal. Mais les maisons sont plus rapprochées qu'en campagne. Donc ça doit être spécial pour les voisins. Merci Louise. Merci Julie. Janine, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pascal, ou par le manger. Il doit y avoir des règles en ville, je ne sais pas s'ils les respectent en fait. Je suis pas sûr qu'on a le droit d'avoir un cop de n'importe quelle manière en ville. Bon, je sais pas. J'espère que leurs omelettes sont bonnes. On va prier et après ça, on va lire le texte du jour et puis voir où on va ce matin avec nos deux derniers personnages. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes de plonger nos regards dans ta parole. Une occasion de recevoir, Seigneur, ces pensées, ces exhortations que tu avais préparées, pensées, planifiées, désirées pour chacun d'entre nous de toute éternité. Je demande, Père éternel, d'étendre ta main, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre compréhension, afin, Seigneur, que nous puissions pleinement recevoir ce que tu voulais que nous entendions et comprenions ce matin. Nous confessons que nous sommes peu de choses sans toi, que nous connaissons bien trop peu et que nous avons besoin de ta sagesse, de ta science et de ton intelligence. Parle-nous, parle à ma sœur, parle à mon frère. Et étends ta main et touche-nous, façonne-nous, afin de faire de nous les ouvriers, les ouvrières, les serviteurs et servantes, les fils et les filles que tu désires. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je lis pour vous dans 2 Timothée au chapitre 4, les versets 6 à 22. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Car le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophée malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Cette semaine, toujours dans notre étude sur ce passage où Paul exhorte Timothée à venir le voir au plus vite à Rome, là où il est emprisonné et en fin de vie. Paul est déjà en train de dire à Timothée que tout ce qu'il avait à faire de son vivant a été fait et que sa vie sert déjà de libation. Et la libation, c'était quoi? C'était un sacrifice ou un accompagnement d'un sacrifice qui était en fait une offrande liquide qu'on versait. Et quand on disait que la libation était faite, c'était qu'on avait effectivement déjà versé tout le contenu. La plupart du temps, c'était une urne avec du vin. Il pouvait y avoir parfois de l'huile. Qu'on versait sur l'autel. Et Paul va se comparer justement à cet être sacrifié ou à ce sacrifice qui est rendu à l'Éternel en disant, voilà, moi j'ai déjà tout été répandu. Et il va dire à Timothée de venir parce qu'il reste peu de personnes autour de lui. Démas, qui était son proche collaborateur pendant les 15 dernières années, qui l'avait accompagné depuis l'Asie jusqu'à Rome, venait de le quitter. Et la Bible nous dit qu'il l'a quitté par amour pour le siècle présent, comparativement à l'amour que Paul pouvait porter pour l'avènement de Christ. Donc, un était soucieux de son acquis ici-bas sur terre, était soucieux de sa condition ici-bas sur terre, et l'autre, Paul en l'occurrence, était soucieux, était attaché plutôt à ceux qui allaient venir avec l'avènement de Christ, donc avec le retour de Christ. Et par la suite, donc, Paul va mentionner trois groupes de gens. Ceux qui se sont opposés à lui ou qui ont mal fini la course, Démas, Alexandre, le forgeron, qui a été un opposant. Mais après ça, il va mentionner deux groupes de personnes qui lui sont proches. Des gens qu'il a envoyés en mission, qu'on va mentionner la semaine prochaine. Donc, des gens qui ont été placés dans différentes églises où Paul était passé et où il avait établi des œuvres. De surcroît à ça, il va parler, c'est ce qu'on étudiait cette semaine, des gens qui sont autour de lui. Donc, il y a Timothée qu'il a appelé à venir près de lui. Il y a Luc qui est resté seul auprès de lui. Il y a Marc, duquel Paul requiert les services en disant à Timothée que lorsqu'il vient, qu'il puisse amener Marc avec lui, qui lui est maintenant utile pour le ministère. Puis on a des gens qui sont à Rome et qui vont envoyer des salutations à Timothée. Donc, on comprend par conséquent que ces gens entourent Paul. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia. Et on a vu chacun de ces personnages jusqu'à présent. Et le nom de chacun d'entre eux a été un enseignement pour nous. Timothée, une des caractéristiques qu'on a appris avec lui, vient avec son nom qui veut dire « qui honore Dieu ». Donc, que notre objectif premier de notre existence, de notre vie, soit d'honorer Dieu. Et on s'est rendu compte que ça peut parfois être subtilement dévié de l'ordre des choses. Si on n'y fait pas attention, on peut commencer, oui, en servant Dieu, avec tout notre cœur, avec tous nos désirs et toute notre volonté, mais à un moment donné, on rajoute, on lie à cela, aussi des profits personnels, que ce soit un profit personnel qui soit tout à fait pécunier et matériel. Certaines personnes vont servir Dieu parce que c'est un filon, selon eux, à travers lesquels ils peuvent s'enrichir. Mais il y a aussi un enrichissement qui n'est pas d'ordre matériel, qui est la reconnaissance publique. Il y a des personnes qui veulent servir Dieu, non pas premièrement pour être utile à Dieu, mais pour qu'on sache qu'ils sont utiles à Dieu. Donc, pour la reconnaissance de leur père, parfois des personnes qui n'ont pas été très estimées pendant des années, des gens qui ont été laissés pour compte, à un moment donné, ils comprennent qu'ils peuvent servir Dieu et ils y voient, dans ce service qu'ils peuvent offrir à Dieu, l'occasion aussi de se rattraper sur le taux de popularité, sur les applaudissements, sur l'estime qu'on peut avoir envers leur personne. Donc il y a des gens qui vont servir Dieu simplement pour la popularité. Certaines personnes vont servir Dieu, non pas pour honorer Dieu, mais pour établir une autorité sur d'autres personnes. Donc se dire leader, se dire en autorité sur les gens. Donc il y a différentes raisons pour lesquelles on pourrait servir Dieu. La seule qui compte, la seule qui devrait primer, et celle qu'on devrait veiller à garder et veiller à demander aussi à Dieu si effectivement c'est ce qui nous fait nous mouvoir dans son service, c'est à savoir est-ce que je suis effectivement en train d'honorer Dieu? Est-ce que mon désir intrinsèque et profond dans le service que j'exécute, est-ce que c'est servir Dieu et honorer Dieu? Ou est-ce que c'est plutôt la reconnaissance publique ou d'autres bénéfices que je pourrais vouloir en tirer? Luc, le deuxième personnage, celui qui apporte la lumière, celui qui éclaircit les situations sombres, celui qui amène la bonne humeur lorsque on est entouré de grisailles, mais de surcroît à cela, celui aussi qui vient enseigner, qui vient clarifier les choses, celui qui vient faire connaître les choses. Et c'est un mandat tout particulier que Luc a eu à remplir, puisque Luc a été un des évangélistes, un de ceux qui ont écrit les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc c'est bien de ce Luc qu'on est en train de parler, qui a amené une lumière toute particulière, même dans ses écrits, concernant Christ, bien que Luc n'ait pas été un témoin visuel de Jésus, il n'a pas été un contemporain de Jésus, il ne faisait pas partie des 12, des 70 ou autres. Il a appris à connaître Jésus plus tard. C'est un juif d'origine païenne en fait, un chrétien plutôt d'origine païenne. Donc il s'est converti à Christ et converti qu'il était, il a eu la révélation de qui Christ était et a écrit un des quatre évangiles qui perdurent jusqu'à aujourd'hui et qui sert pour nous d'enseignement. Donc Luc qui apporte la lumière. Nous devrions être entourés de gens effectivement qui apportent la lumière et nous devrions être des personnes qui apportent la lumière. Marc, lui aussi un des auteurs des quatre évangiles, qu'on appelle en fait Marc, mais son vrai prénom serait plutôt Jean, et pour pas le confondre avec le disciple que Jésus aimait, celui qui était parmi les proches de Jésus, avec Pierre, André et Jacques, donc Jean, pour ne pas le confondre avec lui, on y va avec son sobriquet Marc. Marc veut dire qui défend. Donc ça nous prend aussi dans le corps de Christ des gens qui protègent. Des gens qui protègent le corps de Christ, des gens qui protègent leurs frères et leurs sœurs, que ce soit en avertissant pour des dangers, en avertissant de dangers qui guettent, que ce soit en se plaçant en porte-à-faux face à l'ennemi, un peu comme ce verset qui dit « Je cherche un homme qui élèvera une muraille, qui se tiendra à la brèche, donc qui sait faire un obstacle entre l'ennemi et le peuple de Dieu. » Donc Marc, ça nous prend aussi des gens qui ont ce caractère, qui ont ce cœur de défenseur de l'Évangile et de défenseur du peuple de Dieu. Et on devrait, nous aussi, être défenseurs de nos frères et sœurs. Puis, on a vu quatre personnes qui sont peu connues, Eubulus, Pudens, Linus, Clodia. Eubulus, qui veut dire prudent, donc s'assurer de ne pas être des téméraires, assurément courageux, oui. Donc savoir affronter nos peurs et les surpasser, oui. Téméraire, agir avec frivolité, agir avec imprudence, agir avec, comment on dirait, peu de mesure, vaille que vaille. Donc la Bible nous demande d'être prudents. Eubulus était cet exemple de serviteur auprès de Paul qui était prudent. Alors prudent, qui pouvait avertir les frères et les sœurs de dangers qui les guettaient, des risques de mettre le pied dans telle ou telle sphère, d'avancer de tel ou tel côté. Être aussi prudent dans le sens d'avertir des pièges, des traquenards, des habitudes que l'ennemi peut avoir pour faire tomber le peuple de Dieu. Donc ça nous prend aussi des gens autour de nous qui sont capables de nous ramener à la prudence. Et par la suite, Poudès ou Pudens dans la version française et puis dans la version grecque ou latine, ça serait Poudès, qui veut dire modeste. Donc toujours être rempli d'un cœur humble, d'un cœur d'où émane la modestie. L'enfant de Dieu ne devrait pas être orgueilleux. Une des caractéristiques du royaume de Dieu, à l'exemple de notre maître ultime qu'est Jésus, c'est toute la modestie, l'humilité qui l'habitait. Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs, Dieu fait homme, qui va délaisser sa gloire céleste pendant un temps pour venir ici, sur cette terre, marcher comme un homme quelconque, voire même qui accepte de venir mourir comme le plus vil des pécheurs et qui, quelques heures avant son arrestation et sa condamnation et sa mise à mort, va donner un exemple grandiose de service, mais de service modeste à ses disciples lorsque, en plein milieu du repas de la Pâque, dernier repas qu'il prend avec ses disciples avant d'être mis à mort. La Bible nous dit qu'à un moment donné, pendant le repas, il va se lever et il va aller laver les pieds de ses disciples. Donc, se défaisant de sa robe, va prendre un chiffon, le nouer à la ceinture, prendre une bassine, des vases et se mettre à laver les pieds des disciples. Deux choses ici. Le maître qui va laver les pieds de ses disciples, chose à laquelle Pierre lui-même va être réfractaire en disant, regarde Seigneur, tu peux pas faire ça, tu ne me laveras pas les pieds. Pourquoi? Parce que dans la tradition juive, la personne qui lavait les pieds aux visiteurs, la personne qui lavait les pieds aux habitants de la maison était toujours l'esclave le plus bas de la hiérarchie. Donc Jésus, lorsqu'il se présente devant ses disciples pour laver leurs pieds, il le fait en se présentant comme le plus vil, le plus bas de tous les esclaves. Même si en aucun moment Jésus était plus bas que ses disciples, mais il n'a pas eu peur de s'abaisser, même dans des tâches viles et peu nobles, pour que ses disciples soient pris en main. De surcroît à cela, si on se rend compte aussi que le lavement des pieds s'est passé pendant le repas, c'est qu'au début, ça n'avait pas été fait. Donc, personne n'a voulu s'abaisser pour dire à ses frères et sœurs, « Ben voici, moi, je vais vous laver les pieds. » Personne n'a voulu revêtir cette apparence d'esclave auprès de ses pères, mais Jésus, lui, a accepté de le faire et nous a dit « Ce que je vous ai fait, maintenant, vous le ferez envers vos frères ou vous le ferez les uns pour les autres. » Et on a vu finalement Linus. Non, en fait, Linus, on n'en a pas parlé hier. On a Linus, Claudia et le dernier personnage qu'on va voir donc ce matin. Linus est un chrétien de Rome connu par Paul et Timothée. Je vous rappelle, c'est dans le verset 21. Lorsque Paul dit « Tâche de venir avant l'hiver », ça, il s'adresse à Timothée et lui dit « Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. » Donc Linus, Linos en grec et en latin, un chrétien de Rome connu par Paul et Timothée. Les écrits historiques font de lui qu'il aurait été probablement le premier évêque de Rome. Et lorsqu'on parle d'évêque de Rome, on ne parle pas d'évêque catholique. On parle de responsable de l'œuvre de laquelle émanait ou de laquelle sortait, des œuvres qui sortaient de Rome. Donc Linus, si la tradition est juste, aurait été donc un successeur, on va dire, de Paul pour l'Église de Rome et pour les œuvres qui étaient rattachées. Linus est intéressant au niveau du nom. Linus veut dire un filet. Un filet. Et qu'est-ce qu'un filet? Un filet, dans la pensée judaïque de l'époque et dans la pensée du Proche-Orient et du pourtour méditerranéen, c'était un instrument de pêche, un instrument qu'on utilisait pour aller à la pêche. Ça n'avait pas d'autre utilité. Ce n'était pas un filet pour attraper des papillons, ce n'était pas un filet pour un équilibriste ou un funambule qui pouvait au cirque tomber et puis était rattrapé par un filet. Non, la pensée du filet à l'époque, c'était strictement cet instrument qu'on utilisait lorsqu'on était des pêcheurs professionnels, lorsque notre travail de tous les jours était d'attraper des poissons. Qu'est-ce que fait un filet? Un filet rassemble dans un même endroit, dans un même espace, des poissons. Et ça nous prend dans nos équipes, ça nous prend dans nos proches et ça nous prend aussi comme caractéristique personnelle d'être des rassembleurs. Il y a des gens, vous rentrez dans une pièce et on dirait que tout le monde s'agglutine autour d'une personne. Il y a d'autres gens, lorsqu'ils rentrent dans une pièce, on dirait que tout le monde a envie de fuir. Il y a des gens qui, de façon naturelle, ont cet entre-gens en eux qui fait que tout le monde veut venir graviter, passer un moment autour de cette personne. Des gens qui amènent un bien-être simplement à être en présence de l'individu. Il y a d'autres personnes, au contraire, lorsqu'ils arrivent dans un endroit, vraiment tout le monde se met à paniquer, tout le monde a peur, tout le monde veut fuir, et puis on est convaincu que le bon temps qu'on avait jusqu'à présent vient de s'arrêter à cause de la présence de cette personne. Linus était quelqu'un qui rassemblait. Paul, assurément, était quelqu'un qui rassemblait aussi, puisqu'il y a beaucoup d'églises qui se sont greffées à lui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus sous son ministère. Donc, assurément, parmi les caractéristiques importantes qu'on doit trouver autour de nous, dans les gens qui nous entourent, mais aussi que nous devons exercer auprès des gens qui nous entourent, c'est être des personnes qui rassemblent. Et ça, c'est une pensée tout à fait biblique et tout à fait néo-testamentaire. La Bible nous dit de fuir les personnes qui causent des divisions. On nous appelle même à ne pas considérer les gens qui causent des divisions comme étant des frères ou des sœurs en la foi. À ce moment-ci, il faudrait peut-être s'interroger à savoir c'est quoi une division, c'est quoi causer une division. Foncièrement, causer une division, c'était quoi? C'était de prendre des gens d'une congrégation et les faire sortir de l'assemblée. C'était prendre des gens d'un groupe et scinder ce groupe en deux. Ceux qui restent, ceux qui partent. Et cet exercice est tout à fait critiqué par Dieu, jugé, désapprouvé par Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'on s'attaque directement à son corps. La Bible nous dit que l'Église est le corps de Christ. Donc quand parmi nous rentrent des gens qui, au lieu de rassembler, vont diviser, on est en train de s'attaquer directement au corps de Christ. Lorsque je favorise le départ de certaines personnes d'une Église vers une autre, je suis en train de diviser et de faire mal à l'église locale. Lorsque j'encourage quelqu'un à quitter son assemblée pour X raisons futiles, je suis en train de faire mal à cette assemblée locale. Je suis en train de causer une division. Alors faisons attention, il y a bien des fois où on s'est autorisé à conseiller des choses qui foncièrement étaient une question de division. Faisons attention. Paul va dire dans des désaccords qu'il avait avec certains frères et sœurs, ben, si vous êtes d'un avis contraire ou d'un avis différent plutôt, le Saint-Esprit vous éclairera aussi là-dessus. mais au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Donc, Paul était en train de dire, il est possible, même avec divergence d'opinion, que nous puissions marcher d'un même pas. Il est possible, même lorsqu'on a des avis différents, qu'on puisse continuer à marcher ensemble. Et là, les gens vont dire, ouais, mais je marche toujours avec mes frères et mes sœurs, mais à distance. Lorsque je quitte une assemblée locale, je suis en train de me diviser de cette assemblée locale. Lorsque j'encourage quelqu'un à chercher une autre église, je suis aussi en train de diviser cette assemblée locale. Donc, faisons attention à nos mots, faisons attention à nos paroles, faisons attention à nos gestes pour ne pas sombrer, je dirais pratiquement par ignorance ou par mégarde plutôt, et là je suis gentil par mégarde, à ne pas sombrer dans des instruments de division. Claudia, quand j'ai prêché sur ce passage il y a quelques semaines et que j'ai mentionné Claudia, plusieurs m'ont dit avoir été bénis, alors je suis content de pouvoir partager cette notion encore ce matin. Claudia est un nom qui maintenant est merveilleux à mes yeux, mais à la base, le nom de Claudia n'est pas nécessairement reluisant, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très noble. Claudia veut simplement dire celle qui boite. Une boiteuse, un boiteux. Claude, Claudia, un boiteux, une boiteuse. Et quand je suis tombé sur cette explication, je disais, mais tous les autres noms, c'est merveilleux. Ça nous dit d'honorer Dieu, ça nous dit d'apporter la lumière, ça nous dit de défendre, ça nous dit d'être prudent, ça nous dit d'être modeste, ça nous dit de servir comme rassembleur, comme filet. Mais Claudia, qui boite. Et ma première réflexion, c'était de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux à m'entourer de quelqu'un qui boite? Mais foncièrement, et c'est venu très rapidement, je crois, révélation du Seigneur, j'ai réalisé qu'on ne pouvait se rendre compte que quelqu'un boite que si cette personne était en train de marcher. Je répète, tu ne peux voir quelqu'un qui boite que si cette personne est en train de marcher. Si elle est immobile, tu ne peux pas savoir qu'elle boite. Si elle cesse de marcher, si elle cesse de se déplacer, tu ne peux pas savoir qu'elle boite. Alors ici, ce qui est merveilleux de l'histoire de Claudia, c'est que tout le monde savait qu'elle était boiteuse. Elle n'était pas paraplégique, elle n'était pas paralysée, elle n'était pas paralytique. Elle était boiteuse. Donc les gens la voyaient marcher en se déhanchant, en marchant clopin-clopin. Mais ils s'en rendaient compte. Pourquoi? Parce qu'elle marchait. Parce que malgré tout, elle continuait à marcher. Tant que nous serons ici-bas sur terre, nous devons comprendre une chose. Nous serons des Claude et des Claudia. Personne d'entre nous n'a la marche parfaite. Personne parmi nous n'a le déambulement et la démarche parfaite. On est tous en train d'être réformés, d'être transformés, d'être changés par Dieu et on tend tous à la stature parfaite de Christ. Mais cette stature-là ne sera atteinte que lorsque nous serons dans l'éternité avec Christ lui-même. D'ici là, nous sommes des gens qui boitent. Nous sommes des gens qui pourraient mieux marcher. Nous sommes des gens qui pourraient mieux déambuler. Et c'est là où c'est merveilleux de savoir que Paul n'avait pas honte de s'entourer de personnes comme Claudia. Pourquoi? Parce que Claudia, contrairement à d'autres, continuait à marcher. Démas avait abandonné la marche. Pourquoi? Parce qu'il aimait trop le siècle présent. La Bible nous dit, Paul va nous dire que certains ont fait naufrage de la foi. Claudia, sa marche n'était peut-être pas élégante, sa marche n'était peut-être pas parfaite, sa marche n'était peut-être pas la plus performante qui soit. Ce n'était assurément pas Usain Bolt qui brisait des records aux 100 mètres aux Jeux olympiques? Assurément pas. Mais Claudia, contrairement à d'autres, continuait à marcher et continuait à avancer. Et c'est important pour nous aussi de continuer à avancer, de continuer à aller de l'avant, quelle que soit la vitesse, quelle que soit la douleur, quelle que soit la démarche qu'on peut avoir, de continuer à avancer. Je suis content que ce soit le dernier personnage qui est mentionné, parce que ça vient donner une bonne finition à tout cet enseignement. On a vu des gens qui étaient performants comme Paul. On a vu des gens qui étaient des êtres chéris par Paul, son fils spirituel, Timothée, qui savait honorer Dieu. Des gens qui apportaient la lumière comme Lucas. Des gens qui étaient de grands défenseurs de l'Évangile comme Marc, qui va être aussi auteur biblique. On a vu Eubulus qui était prudent, qui savait où il mettait les pieds, qui conseillait les autres afin d'éviter les pièges. On avait Pudens, de qui émanait la modestie, de qui émanait l'humilité. On avait Linus qui était capable de rassembler les gens comme dans un filet. Et on avait Claudia, qui assurément n'était pas parfaite, mais qui nous montrait un exemple génial de résilience, de bon entêtement envers Dieu ou envers l'œuvre de Dieu, et qui disait, peu importe ce qui se passe, je continue à marcher. Et vous voyez, Claudia me fait penser à un autre personnage biblique. Lorsqu'on parle de Jacob, on oublie que le jour où il s'est battu avec l'ange de l'Éternel pour recevoir sa bénédiction, ce jour-là, le matin qui arrive, Jacob continue à se battre. Il dit à l'ange de l'Éternel, moi je ne te laisse pas partir à moins que tu ne me bénisses. Et l'ange de l'Éternel va lui déboîter la hanche. Il lui déboîte la hanche, et la Bible nous dit que c'est pour ça que, à partir de ce moment-là, les Juifs n'ont plus jamais mangé le tendon de la hanche d'un animal. Pourquoi? À cause de cette bataille entre Jacob et l'Éternel. Ce qu'on oublie par contre, c'est que pour le restant de sa vie, Jacob a boité. Pour le restant de sa vie, il marchait clopin, clopant, n'avait plus cette fougue dans le pas qui avait été sienne jusqu'à présent. À partir de ce moment-là, il boitait, mais à chaque pas, si boiteux soit-il qu'il faisait, il était en train de dire, je me suis battu avec l'Éternel, j'ai fait un face-à-face avec Dieu et j'ai été béni par Dieu. Claudia ne marchait pas parfaitement, mais elle marchait pour Dieu. Elle dit, le prochain pas que je fais est pas génial et pas parfait, mais je continue à marcher pour Dieu. Et 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 ça devrait être l'exemple pour nous. Dernier personnage, et je m'arrête là-dessus. C'est dans le verset 17. On peut même commencer au verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La thématique de cette semaine, veillez à bien s'entourer. Paul était entouré de Dieu. Paul était enveloppé par Dieu. Paul était conduit, était précédé, était habité, était succédé par Dieu. On peut avoir toutes les belles qualités qu'on a mentionnées cette semaine à travers chacun des serviteurs et des servantes qu'on a étudiés. Mais combien Il est important de veiller au fait que Dieu est avec nous, de savoir que Dieu est avec nous, de se rabattre sur cette pensée constamment que Dieu est avec nous, de savoir qu'il est présent en tout temps à nos côtés. Et c'est la thématique pour nous cette année. Jésus est vraiment, 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 vraiment ici. Lorsque je sais que Dieu est à mes côtés, je fais attention à mes paroles. Lorsque je prends conscience de la présence de Dieu, je fais attention à mes actions. Lorsque je sais qu'il est là, l'ennemi me paraît moins féroce. Lorsque je sais que je suis emprisonné, mais qu'il est présent là dans cette cellule avec moi, la douleur s'estompe, la peur s'estompe, la terreur s'estompe. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est avec moi. Mon frère, ma sœur, Dieu est avec toi. Il a placé en toi plein de qualités. Il a placé devant toi plein de défis afin d'être à la hauteur des standards qu'il a espérés pour toi. Tu es capable d'être un homme et une femme qui honore Dieu. Tu es capable d'apporter la lumière. Tu es capable de défendre. Tu es capable d'être prudent. Tu es capable d'être modeste et humble. Tu es capable de servir de rassembleur. Tu es capable de continuer à marcher avec résilience. Pourquoi? Parce que comme pour Paul, Dieu est avec toi même quand tu es tout seul. Alors prions. Seigneur, merci pour ces enseignements et cette parole. Merci pour ces exhortations. Nous prions, Seigneur, que tu puisses arroser tout ce qu'on a partagé cette semaine par ton onction toute précieuse, afin, Seigneur, que ces paroles, ces exemples puissent s'enraciner dans notre pensée, dans notre être, dans notre cœur, afin, Seigneur, d'être nous aussi des imitateurs de ces grands serviteurs et de ces grandes servantes, et que nous puissions avancer, même en boitant, mais continuer à avancer. Nous ne voulons pas reculer, nous ne voulons pas faire du surplace, nous ne voulons pas nous immobiliser, nous voulons aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, sachant que toi, notre roi, notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es avec nous. Merci Seigneur de tous ces rappels et de ces bénédictions pour cette semaine. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà les enseignements qu'on avait pour cette semaine. Donc cette semaine, c'était veiller à bien s'entourer. La semaine prochaine, on va reprendre la prédication de dimanche dernier avec veiller à positionner les bonnes personnes. Quelles sont ces personnes que Dieu positionne dans son service? Quelles sont certaines caractéristiques que ces personnes présentent ou affichent? Donc c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Je vous rappelle, prière ce soir à 19h. Je ne sais pas encore à quel endroit je serai pour la faire, puisque Daphné finit plus tard aujourd'hui, mais à 19h, je serai là. Alors, on se revoit tout à l'heure. Sinon, pour ceux qui ne peuvent pas être là ce soir devant leur écran, on se retrouve donc dimanche matin pour l'Assemblée. En présentiel, on vous rappelle, c'est la Sainte Cène dimanche. Une première Sainte Cène en présentiel. En 2 ans et quelques. Donc, on a des petits kits individuels qui renferment le vin et puis qui renferment aussi le pain à partager. C'est des petites pellicules plastiques. C'est une petite coupe avec une pellicule plastique qui d'abord donne accès au pain, puis après, une deuxième pellicule qu'on soulève et qui donne accès au jus de raisin. Donc, on vous invite à être là dimanche pour célébrer cette grande, 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 grande occasion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Donc, ce soir, 19h, dimanche matin, 10h. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.